franceinter.com.
Le chaudron de la guerre du Rif, il y a 90 ans.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La guerre du Rif, 1921, une guerre de 5 ans, bien oubliée aujourd'hui, commence entre Rifains et Espagnols. Les pionniers de la colonisation qu'ont été les Espagnols ne veulent pas perdre le peu qui leur reste. Le Rif, c'est au nord du Maroc, un corridor, un croissant, tout sauf fertile. Un chef pionnier des luttes anticoloniales, sans doute venu un peu tôt, Abdelkrim, unit les Rifains, il les lance contre les Espagnols et ensuite la lutte déborde au sud sur le protectorat français. Lyautey voit son grand œuvre menacée et les combats vont durer jusqu'en 1926 auxquels participeront Pétain, Catroux, Giraud, Delattre, Bournazel et d'autres. 90 ans après, la guerre du Rif sort du silence dans lequel l'avait scellé sur place la monarchie marocaine, laquelle appréciait peu Abdelkrim. En Espagne, elle fait l'objet d'un réexamen plus vif qu'en France où on note quand même quelques tentatives. Par exemple, ce soir, à une heure tardive, 22h25, Arte diffuse un documentaire, Abdelkrim et la guerre du Rif. Et il y a peu d'années, un livre avait été consacré par Nicolas Marmier et Vincent Courcelles-Labrousse, que je reçois aujourd'hui. Bonjour maître, vous êtes avocat.
Bonjour Jean-Lebrun.
À ce sujet peu connu. Alors au sud, vous pouvez nous décrire le paysage, Vincent Courcelles-Labrousse, vous qui avez travaillé au Maroc pour vos affaires d'avocat pénaliste, vous pouvez nous décrire le paysage au sud. Il y a en 1921 le Maroc, on peut dire utile, celui du protectorat de Lyautey.
Donc le protectorat de Lyautey, effectivement, au sud du Maroc, le Maroc utile, le Maroc fertile, et au nord, une grande chaîne de montagnes qui se jette littéralement dans la Méditerranée, sans point d'accès pratiquement par la mer, sans grande ville, une montagne habitée par des tribus berbères, des tribus souvent rebelles au pouvoir chérifien, au pouvoir central de Fès, et cette zone est octroyée aux Espagnols, autour de 1905, lors du grand partage entre notamment la France et l'Angleterre, des zones d'influence en Afrique.
Alors on dit, avec peut-être une pointe de mépris pour les Espagnols, que les Espagnols sont sous-locataires.
C'est
du
vrai.
Rif.
Ils sont sous-locataires parce que le protectorat est un traité entre la France et le sultan du Maroc et les Espagnols ne sont pas partis à ce traité. Donc c'est la France qui, par l'effet de ce traité, leur concède, en raison des intérêts de l'Espagne dans la zone rifaine, une zone qui est une zone d'influence et qui n'est pas un protectorat.
Lyautey regarde un peu haut d'ailleurs les efforts des Espagnols pour se maintenir dans ces vallées compartimentées, dans cette montagne qui se jette dans la mer. Efforts qui sont contrecarrés en 1921, parce que les Espagnols connaissent une très grave défaite. Le seul monument commémoratif qui reste dans le Rif de cette période, c'est une modeste plaque ici décrite à Anoual.
Ici, des gens de Rif commémorent la bataille d'Anoual, le 26 d'El-Qaïda, 1340. C'est le 21 juillet 1921, contre les Espagnols, les colonisateurs. Alors ici, des dizaines de mille des Espagnols étaient morts ici, à Anoual.
Et les Moudjahidines, comme dit la personne qui décrit cette plaque au micro de Raphaël Kraft, sont commandés par Abdelkrim. Le chef de la rébellion, c'est un ancien ami des Espagnols. Il pensait que on pouvait collaborer avec les Espagnols parce qu'ils étaient faibles, mais ils étaient si faibles qu'on pouvait peut-être se passer d'eux.
Il pensait à une collaboration, un partage avec les Espagnols qui, pour lui, pensait-il au départ, pourrait apporter du développement à la région du Rif. En réalité, l'Espagne, à l'époque, est extrêmement pauvre. Elle a une gestion totalement militaire de sa présence au Maroc, n'est pas en mesure d'investir au Maroc. Et néanmoins, après la Deuxième Guerre mondiale, elle est un petit peu obligée par les autres puissances d'assurer sa souveraineté sur le Rif, ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle n'a pas pu faire militairement jusqu'à présent. Et donc, à ce moment-là, Abdelkrim, déjà un petit peu tenté par les sirènes allemandes au moment de la Première Guerre mondiale, puisque les Allemands essayent d'ouvrir un second front dans les colonies françaises, Abdelkrim progressivement va quitter le camp des amis de l'Espagne et prendre la tête progressivement de l'ensemble des tribus du Rif pour les fédérer.
C'est un chef de tribu, petit portrait, il a une trentaine d'années, un peu rondouillard. La presse occidentale le décrit comme fourbe, bien sûr,
évidemment,
mais intelligent.
Extrêmement intelligent, très cultivé. Il a été journaliste au Telegrama del Rif, donc est un journal espagnol de Melilla. Il a fait des études à l'université de Fès. Et il vient d'une famille qui est dans l'orbite du pouvoir chérifien. Donc ce sont des lettrés. Contrairement, effectivement, à la majeure partie de ses compatriotes.
Lettré, mais passionné, Vincent Courcelles-Labrousse, par tout ce qui est moderne, la machine, la route, le téléphone. Et il crée ce qu'il présente à l'extérieur comme une république confédérée. Voici un texte de lui qu'on retrouve dans le documentaire d'Arte ce soir. Je rappelle, Daniel Kling a réalisé Abdelkrim et la guerre du Rif qui est proposée aux téléspectateurs ce mercredi.
En quelques mois, nous allions démontrer qu'un petit peuple était capable de prendre en main son destin. J'allais jeter les bases d'un État, commencer à moderniser la vie des tribus et les unifier. J'allais créer une justice, une armée, une école. J'allais entreprendre un recensement de la population. J'allais même convaincre les Rifains de payer un impôt pour financer nos dépenses. Il est temps que l'Europe, qui a proclamé au XXe siècle sa volonté de défendre la civilisation, fasse passer ses nobles principes du domaine de la théorie à celui de la pratique.
Ancien journaliste, il avait quand même le sens de la communication. Il amenait des Américains, des Anglais voir ses réalisations.
Il a su porter sa lutte au-delà du cadre étriqué de l'Espagne, puisqu'il a effectivement envoyé des émissaires en France, en Angleterre. Il s'est trouvé des partisans, notamment en Angleterre, où s'est créé un Rif Committee qui voulait aider le Rif à accéder à l'indépendance. Donc effectivement, il publie même des chroniques au moment de la guerre du Rif, dans des lettres ouvertes dans la presse espagnole. Donc ce qui montre qu'il avait un véritable sens, non seulement de la politique et de la communication, et du jeu entre l'opinion publique et le pouvoir politique, qu'il soit espagnol ou qu'il soit français.
Les tribus rifaines, c'est un prodige de pouvoir les fédérer. On ne peut les fédérer que contre l'extérieur. C'est un prodige de leur faire payer l'impôt. C'est un prodige de provoquer la mobilisation des personnes entre 16 et 50 ans. Voici un vétéran qui a maintenant 106 ans. Raphaël Kraft a vérifié sa carte d'identité. Il est né en 1905 et il explique pourquoi il combattait aux côtés d'Abdelkrim.
J'ai 21 ans, j'étais à Darobaran.
En 1921, j'étais à Darobaran face au général Silvestre qui est mort là-bas.
Lui et moi.
Les Espagnols se sont repliés jusqu'à Melilla.
Où
ils se sont renforcés avec des troupes marocaines. C'était la guerre, la fatigue, la faim. Nous allions de l'avant avec l'aide de Dieu. Moi, j'étais jeune, j'avais peut-être 17, 18 ans. Là, il n'y avait pas meilleur tireur que moi. Dès l'enfance, mon père m'a appris à tirer.
Pourquoi pas la poche là pour moi? À tirer, pour moi, à tirer. Des poignets.
Après, je suis devenu artilleur avec Abdelkrim. Les Espagnols nous bombardaient avec des bombes maléfiques. Elles étaient en fer et dégageaient du piment qui piquait. Nous avions très faim. La mort valait mieux que la vie, mais les Rifains sont des gens durs.
Donc les Rifains peuvent être des artilleurs.
tout à fait, c'est la grande nouveauté de cette guerre, c'est qu'à la suite d'un Oal où les Espagnols perdent 15 000 hommes, ils perdent également tout leur matériel, et les Rifains récupèrent une artillerie dont ils vont apprendre à se servir et qu'ils vont utiliser lorsqu'ils vont attaquer le protectorat français.
On va venir tout à l'heure à l'attaque du protectorat français, mais parlons des responsabilités des Espagnols. C'est plus facile, Vincent Corcel-Labrousse. Ils avaient une longueur d'avance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de piment qui pique ?
Les Espagnols, ne s'en sortant pas en 1923, après Anoal, avec cette guerre dans le Rif, changent de stratégie et, aidés par des ingénieurs de la Reichswehr allemande, mettent au point des bombes à l'hypérite, donc du gaz moutarde, que l'on peut larguer par avion. Donc ils vont utiliser cette stratégie pour essayer de neutraliser les offensives successives des Rifains.
Alors je ne sais pas, c'est ça qui provoque à l'époque de grands débats en Espagne. La guerre du Rif et ses difficultés à provoquer l'accession à la dictature de Primo de Rivera. En tout cas aujourd'hui, ça fait discussion en Espagne, les associations de Rifains victimes vont porter leur cause jusqu'au Cortés, jusqu'au Parlement de Madrid.
Tout à fait, parce qu'il semblerait qu'il y ait eu notamment des études médicales qui démontrerait des taux de cancer plus importants dans ces zones qui ont fait l'objet de bombardements au gaz dans les années 20 que dans d'autres endroits du Rif ou du Maroc. Donc il y a véritablement un vrai débat en Espagne sur cet usage absolument inhumain des gaz contre des populations civiles.
Si Madrid s'enflamme aussi à l'époque, c'est parce qu'il y a des vedettes dans la guerre du Rif. Franco, sa réputation, son image, ça naît à ce moment-là.
Franco fait toute sa formation militaire, toute sa culture au combat lors de la guerre du Rif. Et il devient effectivement le général Franco à 33 ans, chef de la Légion de la Bandera espagnole. Il est dans les années 20. On dit qu'on célèbre tous les jours sa gloire dans les journaux espagnols.
La Bandera, mais est-ce que la guerre par les Espagnols est une guerre par délégation des tirailleurs indigènes, comme on en verra dans les troupes françaises, Franco en a commandé, des légionnaires étrangers, la Bandera, mais il n'y a pas les conscrits.
Alors, il y avait au départ des conscrits dans l'armée espagnole, dont d'ailleurs beaucoup sont morts à Anoal. Et au fur et à mesure, les Espagnols ne voulant plus, parce que ça pose un problème politique permanent en Espagne, exposer des conscrits, vont déléguer en quelque sorte leur guerre à deux types d'unités. Les régulars, c'est-à-dire des troupes régulières marocaines, commandées par des officiers espagnols, et vont créer en 1919, sur le modèle français, une légion étrangère espagnole, mais qui est essentiellement composée d'Espagnols d'ailleurs ou de Latino-Américains.
Alors si c'est sur le modèle français, c'est une explication du film qui glorifie la Bandera de Julien Duvivier. Nous sommes en 1935, donc une quinzaine d'années après les faits.
Légionnaires, toute une région du Rif est en révolte. Pendant des jours et des jours, un poste situé à 100 km d'ici dans la montagne peut tenir l'ennemi en échec. En attendant que la résistance soit organisée, il me faut 24 hommes pour occuper ce poste. L'Espagne, vous êtes engagé à servir, a besoin de vous. J'ai sur vous tous les droits. Elle vous demande, sans scrupule et sans ménagement, de mourir pour une cause qu'elle défend et en vertu du contrat que vous avez signé. Au moment de vous conduire à la mort, elle ne vous doit aucune autre explication. Et ces 24 hommes, je pourrais les désigner d'office. Mais je veux des volontaires. Je veux des volontaires pour mourir. Le fortin où je vous envoie est celui d'aucun de vos camarades est revenu vivant. Il me faut 24 hommes pour le défendre. Je prendrai moi-même le commandement de ce détachement. Que ceux qui sont prêts à mourir sortent des rangs.
En Espagne, on n'a pas oublié. Au Maroc, ici, c'est le groupe Darga. Darga, ça veut dire le cactus qui résiste à tous. C'est un groupe de jeunes, neuf jeunes musiciens de Casablanca. Sidi Abdelkrim, disent-ils, la jeunesse du Maroc t'a oublié. Nous n'oublierons jamais ce que tu as fait. Et c'est parce que nous t'avons oublié que le changement au Maroc s'est oublié. Et on va dire que si Abdelkrim n'est plus célébré au Maroc, c'est que la monarchie n'appréciait que peu son action. La monarchie marocaine et Abdelkrim. Abdelkrim, à un moment, va se proclamer commandeur des croyants. Il ne juge pas légitime le pouvoir du sultan à Fès, au sud.
Pour Abdelkrim, Moulay Youssef, le sultan et le sultan des Français, c'est un fantoche.
C'est blanc, burnou et burnou blanc.
Burnou blanc. Et pour le sultan Moulay Youssef, Abdelkrim est l'agitateur venu du nord, le rebelle, le rogui, qui se dresse donc contre la légitimité à la fois religieuse et politique du sultan du Maroc.
Alors vous dites, dans votre style, Vincent Courcelles-Labrousse, vous êtes avocat, dans votre livre sur la guerre du Rif, qui est disponible maintenant en point poche, le chaudron qui a ébouillanté les Espagnols va déborder sur le protectorat français. Il y a une longue ligne de séparation, mais qui est en pointillé avec des forts. Et alors, qu'est-ce qui se passe ?
Abdelkrim va déborder sur le protectorat français parce que en 1925, il est très très fort militairement. Il est déjà aguerri, ses troupes sont aguerries par 4 ans de guerre contre les Espagnols. Ils sont extrêmement bien armés et sa légitimité, il la tient du slogan, en tout cas de sa volonté, non seulement de créer un État rifain, mais de rendre à nouveau le Maroc indépendant des colonisateurs. Et donc, le 13 avril 1925, les troupes d'Abdelkrim dévalent sur le protectorat de Lyoté et pendant plusieurs mois vont mettre la situation militaire des Français en très très grand danger.
Alors, Lyoté est en danger parce que ses troupes sont dégarnies. Depuis la guerre de 14, il a moins de troupes au Maroc. Mais il compte a priori sur les tribus avec qui il a contracté ce qu'il croit être un mariage d'amour.
Voilà, et on s'aperçoit que ce qu'il appelait la pénétration pacifique, l'union des âmes et des cœurs, ne fonctionne pas, et le Maroc du Nord s'embrase.
C'est-à-dire que les tribus se retournent ?
Les tribus, les unes après les autres, se retournent contre les Français, et les Français se retrouvent dans le Nord, noyés au milieu de l'insurrection, ayant même peur, à un moment, non seulement de perdre Fès, et si on perd Fès au Maroc, on perd le Maroc, mais également de perdre leur communication avec l'Algérie.
C'est l'inversion totale. Voici la manière dont un film américain, il y a eu des reportages américains et puis il y a du cinéma hollywoodien consacré au Rif. Peut-être les reportages des années 20 étaient meilleurs que le cinéma hollywoodien. Voici comment le film Légionnaire avec Jean-Claude Van Damme décrit cette pénétration réussie dans le front français par les troupes d'Abdelkrim.
Je suis le capitaine Charlier, le nouveau commandant de cette section. Nous allons marcher sur Fort Bernel. C'est le dernier fort français qui nous sépare des forces de Abdelkrim. Cet homme qui s'est proclamé chef des forces arabes a enfoncé ses troupes dans le territoire français, détruisant sur son passage 9 avant-postes. Les légionnaires défendant ces positions ont été sauvagement massacrés. Et ceux qui n'ont pas été tués sur le coup ont été torturés de façon ignoble. Nous partirons à l'aube. Sergent-chef ?
Les hommes du Rif peuvent aller aussi vite que le vent, décapiter un homme et, sans s'arrêter, ils peuvent embrocher sa tête au bout de leur sabre, telle une olive sur un petit cure-dent. Ils ne vivent que pour avoir l'honneur de mourir au combat. Abdelkrim, leur chef, est très intelligent et fourbe. Il a réuni les tribus berbères en une unité de combat plus performante que tout ce que vous avez pu voir dans votre vie. Un petit conseil d'amis. Vous avez intérêt à toujours garder une balle dans votre poche. Pas pour votre ennemi, mais pour vous-même.
Comment dire, la représentation par le cinéma américain en 1998 est encore plus violente que la représentation de la presse française en 1925.
Sans aucun doute, ce légionnaire a l'air d'être un monument du cinéma américain. La presse française, en fait, est très diverse sur le RIF. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que le Parti communiste français va utiliser la guerre du RIF pour se lancer dans ce nouvel axe de propagande qui est la lutte pour les peuples coloniaux, pour l'accession à leur indépendance.
Ben ça le fait revenir au jour parce que les premières années du Parti communiste avaient été marquées par un grand sectarisme. Alors là, il trouve l'occasion de se déployer sur la place publique. Et au premier rang des communistes, il faut quand même citer Jacques Doriot.
Jacques Doriot.
Député de Saint-Denis.
Extrêmement virulent, les débats parlementaires sont d'une grande violence à l'Assemblée nationale, on ne connaît plus ça aujourd'hui. Cachin, vaillant couturier, monte à la tribune, vilipende les colonialistes, vilipende Lyoté. Et Lyoté également commence à perdre de son crédit auprès de ce gouvernement du cartel des gauches, puisqu'on n'est plus dans la chambre bleue horizon de l'après-guerre. C'est une nouvelle majorité qui est arrivée au pouvoir et qui doit notamment composer avec son allié socialiste.
Herriot, chef du cartel des gauches, enfin, il y a quand même un journal radical qui s'appelle l'Air Nouvelle et qui dit « des munitions de l'aviation », pendant que l'Action française dit « des gaz, des gaz ». C'est un titre de l'Action française. Il y a eu des titres, des gaz, vraiment. C'est-à-dire que Lyoté était prêt à ébrécher son mythe.
Lyoté
et a utilisé
tout à fait
les gaz.
Lyoté, au pire moment militaire, en avril, en mai, en juin 1925, réclame par plusieurs télégrammes à Paul Painlevé, donc qui est le président du Conseil,
qui a succédé à Herriot,
l'envoi d'obus spéciaux pour pouvoir les utiliser en dernière extrémité. Et Paul Painlevé va refuser cet acheminement. Et il n'y a pas de preuve aujourd'hui documentée que les Français aient utilisé des gaz pendant la guerre.
Oui, enfin, il y a la preuve que Lyoté était prêt à sortir de sa légende.
Ah, ça c'est vrai, oui.
Prêt à sortir de sa légende, mais c'est le gouvernement qui va le sortir de son poste en juillet 1925. Il envoie le maréchal Pétain qui débarque en costume d'aviateur. Il est vieux par avion. Il est vice-président du Conseil supérieur de la guerre. Et il est soi-disant en inspection. Georges Catroux, futur général Catroux, qui était là, témoigne.
Lorsque le gouvernement décida d'envoyer le maréchal Pétain au Maroc, il lui donna la qualité de Bichus Dominicus, d'envoyé du gouvernement, pour s'informer, pour l'informer, pour se rendre compte des conditions de la lutte, pour étudier les moyens nécessaires et les méthodes les meilleures pour battre Abdelkrim. Lyoté accueillit avec une extrême cordialité le maréchal Pétain, convaincu que, ainsi que lui disait Pétain d'ailleurs, il ne venait que pour l'aider et non pour le gêner. Et après des conversations confiantes, Lyoté ouvrit tous ses dossiers en même temps que son cœur et son esprit à Pétain. Il mit à ses dispositions tous les moyens d'information. Le maréchal Pétain put tout voir, se rendit compte de tout, visita le front et put s'entretenir en particulier avec les troupes et avec les chefs afin de savoir leurs besoins et leur état d'esprit.
Alors l'accueil de Lyoté vis-à-vis de Pétain fut-il aussi cordial, c'est à discuter. Mais en tout cas, Pétain va évincer Lyoté.
Tout à fait, parce que Pétain n'est pas d'accord avec l'organisation militaire lyotéenne, qu'il ne trouve pas du tout orthodoxe.
Parce que Lyoté, il se préoccupe quand même du moyen et du long terme, des alliances à venir, du Maroc de demain.
Voilà. La différence, d'ailleurs, c'est ce que Pétain dira à Catroux, vous faites de la politique et moi, je fais la guerre. Et donc, Pétain, lui, est venu pour faire une guerre conventionnelle dans la montagne Rifaine.
Alors, il obtient des renforts. La guerre conventionnelle, ça passe aussi par l'aviation. Pétain, qu'on présente souvent comme un défensif, c'est la stratégie du marteau-pilon là, pendant la guerre du Rif.
Il veut aller chercher Abdelkrim à Agedir, c'est-à-dire
jusque dans les chiottes.
Jusque dans son fief, en tout cas. Peut-être pas dans les chiottes. Mais il veut aller extirper, effectivement, Abdelkrim du Rif parce qu'il pense, à tort ou à raison, que si on se contente de faire un cordon sanitaire autour d'Abdelkrim, il restera dans les années à venir un problème.
Bah, il réussit, le fief est pris, et puis l'hivernage 25 est déjà très défavorable à Abdelkrim, qui, en 1926, va être obligé de rendre les armes.
Alors, en 1926, il y a deux choses extrêmement importantes. Donc, en 1925, il y a quand même le débarquement des Espagnols.
Oui, parce qu'il y a une alliance.
Il y a une alliance entre la France et l'Espagne. Alliance dont on n'avait jamais voulu entendre parler Lyoté. Il y a cette alliance qui est nouée par Pétain et Primo de Rivera. Et effectivement, en avril 1926, la grande offensive finale, les Français ont pratiquement 100 000 hommes à pied d'œuvre au Maroc, les Espagnols environ 50 000, et en tenaille, on arrive jusqu'à Agdir, et Abdelkrim, prudent, se rend non pas aux Espagnols, mais aux Français.
Il va se livrer à la générosité de la France. La victoire est célébrée à Paris. On nous rebat les oreilles de l'inauguration de la grande mosquée de Paris par le sultan du Maroc, preuve de la générosité vis-à-vis de l'islam de la République. Mais cette visite du roi du Maroc, ce n'était pas seulement l'inauguration de la mosquée qui la provoquait, c'était aussi la célébration de la victoire du Rif. Abdelkrim s'est livré à la générosité de la France. On va l'installer dans une vaste demeure de 20 pièces. Où ça ?
À La Réunion.
Ah oui, c'était assez loin. Il va y rester très, très longtemps. Il naîtra sa fille Aïcha. Il a eu 11 enfants, Abdelkrim. Aïcha qui a rencontré Raphaël Kraft pour une série d'émissions à venir sur France Culture, sur la mémoire de la guerre du Rif. Souvenir donc de la vie à La Réunion.
Il y avait une chanson qu'elle aimait beaucoup. « Oh ma belle Catherine, tu n'as que 16 ans et faut voir comme... » Tu affoles déjà tous les hommes. Est-ce ton œil si doux qui les mine, ou bien les rondeurs de ta poitrine qui les rend fous?
Oh, Catalina, ta belle, écoute, l'amour t'appelle. Pourquoi dire non maintenant? Ah, ah, faut profiter quand il est temps. Ah, quand tu seras vieille, tu diras baissant l'oreille, si j'avais su dans ce temps-là, ah, 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 ma belle Catherine est là.
Ben, il mourra vieux à 80 ans, Abdelkrim. On passe une chanson de Tino Rossi parce qu'on veut s'illusionner peut-être et penser qu'Abdelkrim était très francophile malgré tout. En fait, quand l'occasion, en 47 seulement, lui est proposée de partir pour la métropole, de quitter La Réunion, il faut se compagnie aux Français.
Il faut se compagnie aux Français en Égypte et du Caire, il va reprendre immédiatement la lutte avec les différents chefs de parti qui sont réfugiés à l'époque au Caire et n'aura de cesse de continuer son combat pour l'indépendance totale et le retrait des troupes françaises de l'ensemble du Maghreb.
Ah oui, il passe, après être passé du Rif au Maroc, du Maroc à la lutte pour le Maghreb.
Pour le Maghreb.
C'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas extrêmement populaire auprès de la monarchie marocaine, laquelle a souvent réprimé d'autres révoltes dans le Rif. Hassan II, on était un spécialiste avec le général Oufkir, il a abandonné le Rif, mais ça change avec Mohamed VI.
Ça change, le roi aime le nord du Maroc, il y passe ses vacances. Il était là lorsqu'il y a eu le tremblement de terre d'Al Hoceima, il est allé s'installer sur place auprès des Rifains. Et puis la question berbère est en train d'évoluer également, le traitement de la question berbère est en train d'évoluer au Maroc. Mais le corps d'Abdelkrim n'a toujours pas été rapatrié de l'Égypte, où il est toujours enterré au Maroc.
Qui sait, peut-être le roi du Maroc fera-t-il la démarche qu'attend la famille d'Abdelkrim pour lui offrir une sépulture. La guerre du Rif, votre livre chez les Talendier il y a 3 ans est maintenant dans la collection Point de Poche au Seuil. Et puis ce soir, 22h25, sur Arte, un documentaire. Préparation de cette émission, Frédéric Martin, Franck Olivard, Raphaël Kraft, à la technique Philippe Duclos, Sandrine Laurent et à la réalisation Jacques Sigal.